Hola, je suis Manon, coach en gestion émotionnelle. Bienvenue dans mon podcast sur la gestion des émotions dans l'entrepreneuriat. Joie, tristesse, colère, peur, nous essaierons de comprendre comment faire de ces émotions une force. L'entrepreneuriat, c'est une aventure qui nous balance entre les sentiments de puissance et de vulnérabilité en un claquement de doigts. Et ici, nous parlerons sans tabou de cet ascenseur émotionnel. Si ça résonne en toi, alors tu peux t'abonner pour découvrir tous mes invités. Je te partage aussi tous mes exercices de coaching dans ma newsletter. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour t'inscrire. Bonne écoute!
Let's go!
Yes!
Alors, je suis super contente aujourd'hui de te recevoir, Benjamin, ça me fait trop plaisir.
Bah, merci à toi de me recevoir, plaisir vraiment partagé.
Bah, trop bien! Est-ce que tu pourrais te présenter comme tu le souhaites pour les personnes qui ne te connaissent pas?
Ouais, alors moi je suis Benjamin, cofondateur d'Abi, une solution de gestion pour les indépendants. Donc j'ai cofondé la boîte avec trois de mes meilleurs amis, et ça fait actuellement 3 ans qu'on travaille sur le projet. De base, je suis ingénieur informatique, donc tu vois, plutôt le mec réservé dans une boîte et on ne touche pas. Et voilà, du coup, ça fait 3-4 ans que je suis vraiment entrepreneur et que j'apprends toutes les facettes de ce métier, entre guillemets. Voilà, grosso modo.
Ok, trop bien. Alors, j'ai plein de questions. Il y a plein d'aspects qui me viennent en tête.
Yes.
Il y a l'aspect relation avec les cofondateurs, l'aspect relation avec l'équipe, parce que être manager, avoir des gens et tout, j'imagine que ça a des côtés trop cool et des challenges. Et il y a l'aspect vraiment abyss que vous proposez, parce que c'est quand même un gros point de friction au final chez les personnes qui utilisent votre application.
Ouais.
Du coup, est-ce que tu pourrais vraiment expliquer ce que c'est Abyss? Je pense que c'est le petit moment de faire ta promo.
Du coup, Abyss, on est vraiment à destination des solopreneurs, indépendants de manière générale, tout type de structure. On aide sur tout ce qui est partie facturation, comptabilité, et on intègre aussi des outils de productivité, tu vois, vraiment pour essayer de t'organiser au mieux. En fait, avant de monter Abyss, on a été freelance tous les quatre.
Ouais.
Et du coup, on s'est vraiment servi de ces expériences pour voir quels sont les points qui sont bloquants pour les gens, quels sont vraiment, tu vois, t'oses pas te lancer, pourquoi, tu vois, c'est vraiment de ce postulat qu'on est parti. Et du coup, on essaie de faire une solution qui soit la plus simple possible. En fait, notre vision, c'est que tout le monde peut devenir entrepreneur à travers notre solution. Tu vois, c'est l'idée vraiment, c'est, je sais pas, j'ai mis l'URSSAF, tout ça, ça te parle. c'est que à terme, les entrepreneurs, ils ne savent même plus ce que c'est l'URSSAF. Tu vois, on leur dit, il faut payer ça pour vos cotisations sociales, comme on te dit sur ta fiche de paye. Au final, tu sais pas à qui va l'argent. Tu vois. Et en fait, l'idée, c'est que voilà, avec Abyss, tu puisses vivre ta vie d'indépendant, faire ton métier et pas t'occuper du reste. Tu vois, l'idée, c'est vraiment d'aller dans cette direction.
Ok, donc est-ce que vous mettez KO la phobie administrative et comptabilité?
C'est un des arguments, vraiment. Mais quand je te dis, parce que tu parles de phobie, c'est vraiment le terme. Il y a des gens. Alors, évidemment, c'est pas tout le monde. Tu vois, il y en a, ils veulent. Je pense aux artisans qui ont l'habitude de faire des. Enfin, que leur femme fasse leur facturation. Là, c'est vraiment gagner du temps. Tu vois, c'est s'organiser le plus vite possible. Et eux, ils s'en foutent, tu vois, d'avoir un truc simple et tout. Eux, ils veulent juste vraiment gagner du temps. Et t'en as qui ont la phobie de se lancer parce qu'ils ont peur des papiers. C'est vraiment le mot phobie, c'est là, ils disent, mais vous m'avez changé la vie, vous m'avez simplifié un truc que je pensais insurmontable. Et ça, c'est vraiment le truc le plus satisfaisant, parce que tu te dis, t'as pris des personnes qui n'étaient pas du tout vouées à se lancer ou avoir une vie classique en CDI, enfin, tu vois bien, et te les a aidés à passer l'étape et à franchir le cap.
De façon simple.
De façon simple, voilà. Et ils se sentent sereins parce qu'on a une équipe qui les accompagne avec un chat. Enfin, tu vois, vraiment, on essaie de mettre tout à disposition pour que tu. Ouais, que tu te lances, quoi, tout simplement.
Ok, super. Donc, ça fait partie des freins. Et toi, te lancer et te mettre à ton compte, tu vois, après, tu avais été freelance, est-ce que ça a été quelque chose de naturel pour toi? Est-ce que tu as été salarié avant? Comment ça s'est fait?
Alors, moi, mon aventure entrepreneuriale, elle commence quand j'ai 12 ans. Parce qu'en fait, j'ai monté une chaîne.
Ah, toi, t'avais pas le time.
Non, j'avais pas le time. Je suis en train. Demain, je fais une présentation dans un collège et je suis en train de reprendre un peu tout l'historique de. Ça a commencé au collège, en fait. Quand j'étais en 5e ou 4e, j'ai commencé à réparer des téléphones pour me faire de l'argent de poche, en fait, parce que je voulais faire des trucs par moi-même. Et tu vois bien, mes parents, ils me donnaient un peu de sous, mais. Enfin, faut aller racketter, c'est un peu chiant, tu vois bien le truc, quoi. Du coup, je voulais vraiment me payer mes trucs, aller faire des sorties avec mes potes et tout. J'avais déjà beaucoup, enfin, tu vois, j'avais beaucoup d'amis, j'étais très entouré à l'époque. Et du coup, bah, ça a commencé comme ça. J'ai réparé des téléphones et j'ai monté une chaîne YouTube où je faisais des tutos sur. Alors, à l'époque, c'était la PS3. J'ai fait pas mal de trucs sur l'iPhone, l'iPod Touch à l'époque. Tu te souviens du truc là? J'ai fait avec du coup un de mes associés actuels. Plein de vidéos et tout. Alors à l'époque, hein, ça remonte il y a 12, 13, 14 ans, on faisait des vidéos à 300 000 vues. Donc,
Oh, wow, ok.
ouais, on avait des vidéos qui faisaient 300 000 vues. Et on a même été sponsorisé par quelqu'un qui vendait des coques d'iPhone pour
Ok.
présenter, tu vois, en vidéo, bah, vous pouvez acheter la coque là et tout. Un peu le Rhinoshine de l'époque, mais sans le
Trop
savoir, quoi.
stylé.
Alors, ils nous avaient juste donné la coque, hein, on n'était pas payé ou quoi, mais tu vois, genre, bah, déjà à l'époque, en fait, on a commencé à faire des trucs, à entreprendre sans le savoir, tu vois. Nous, c'était un jeu pour nous,
Ouais.
c'était déjà se faire de l'argent pour pouvoir sortir. Et puis, bah, en fait, ça remplissait nos week-ends, tu vois, genre. En seconde, je me souviens, on avait des projets. À l'époque, il y en avait, ils faisaient la fête. Nous, le week-end, on était enfermés chez nous jusque 3h du mat à coder des trucs parce qu'en fait, ça nous faisait kiffer, tu vois. Et du coup, donc là, ça c'était l'époque collège-lycée. J'ai déjà fait pas mal de trucs comme ça. Et en fait, quand je suis arrivé en école d'ingé, j'ai fait des stages. Et là, je me suis dit, je pourrais jamais être salarié de ma vie. Vraiment, c'était. Je n'accepte pas que. Je voulais faire plein de trucs, tu vois, quand j'étais dans un stage. Je prenais plein d'initiatives, je voulais faire des trucs, et en fait, t'avais le manager au-dessus qui disait: Non, mais on sait pas ce qu'on t'a demandé, tu restes dans ta petite case et tu fais exactement
Ouais.
ce qu'on t'a dit, tu vois. Et là, je me suis dit: Non, mais c'est pas possible, je peux pas. Enfin, genre, j'étais frustré, tu vois, parce que ça soit pour moi ou pour les autres, en fait, j'aime bien aller au bout de tout ce que je fais, tu vois. Je peux pas me dire: Je commence un truc, je le fais à 10% et on s'en fout. Non,
Ouais.
ça marche pas. Dans tout ce que je fais dans ma vie, c'est vraiment à 100%. Et voilà, et du coup, bah. Au bout de la troisième année, enfin non, dès la deuxième année, on s'est lancé. En fait, on a fait un site web, comme ça, tu vois, l'été. On savait pas coder, hein, on a pris le truc, c'était un peu. Enfin bref, c'était compliqué. Et on l'a fait à trois, et ça s'est super bien passé, tu vois, on a mis 3 mois. On allait en stage la journée, on rentrait le soir à 7h, on codait jusque 2h le matin, et on repartait comme ça
Ok.
pendant 3 mois. C'était vraiment très intense, mais ultra formateur, tu vois. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et troisième année, on a fait un très gros projet en freelance. On s'est associé du coup à quatre. On a fait un peu un collectif de freelance, tu vois, avant l'heure. Et on bossait à quatre sur des missions comme ça qui étaient trop grosses pour une personne toute seule, tu vois. Et voilà comment c'est démarré. Et à la fin de l'école d'ingé, enfin pendant le Covid, en fait, on a fini l'école d'ingé en juillet 2020. En janvier 2020, on montait notre structure de conseil en informatique, juste avant Abby. Voilà, c'était vraiment la continuité, tu vois,
Ok,
de.
ouais, donc c'était un peu un parcours logique
Ouais,
pour
c'est
toi.
ça, c'est vraiment le parcours logique et le fait de jamais céder.
Jamais CDI.
Impossible, impossible.
Ok, alors c'est hyper intéressant de dire, je pense que énormément de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat sont lancées parce que bah, ils sont passionnés par quelque chose et tout, et parce que ils veulent pas se résigner au CDI et aux conditions qu'il y a. Bah, du coup, ma question c'est comment est-ce que toi tu fais, parce que maintenant tu as des salariés.
Ouais.
Justement pour dire, tu vois, est-ce que tu es plus attentive de dire, bah moi ce que j'ai vécu en stage, je le veux pas pour mes employés et pour les personnes qui m'accompagnent?
Ouais, bah c'est vraiment, je pense que c'est le côté positif et le fait qu'on arrive à faire grossir l'équipe assez rapidement et que les gens soient vraiment engagés dans le truc, c'est que tout ce qu'on a vu avant, en fait, on met des barrières pour pas le reproduire, tu vois. C'est vraiment le fait, nous on a subi du micromanagement, on
Ouais.
a subi vraiment tous les trucs horribles, vraiment, tu vois, un mec qui arrive et qui regarde tes horaires, à quand est-ce que tu te lèves de ta chaise, les pauses que tu prends et tout. À pointer sur des
C'est
pointeuses. Non
horrible.
mais enfin tu vois le truc. Et en
Ouais.
fait nous, bah on est parti vraiment à l'extrême, c'est full télétravail. On n'a pas de gestion d'horaire. Enfin tu vois, il n'y a pas d'horaire d'entreprise. Les personnes, on les laisse faire ce qu'elles veulent et ce qu'elles pensent juste pour réussir à bah, leur mission. Le seul inconvénient, c'est que quand tu dois reprocher des choses, c'est beaucoup plus subjectif, tu vois.
Ouais.
Et c'est là où c'est un peu le downside du truc, c'est que bah quand on doit faire des réprimandes, tu te bases sur quoi? Parce qu'il n'y a pas de Il n'y a pas nécessairement de fiche de poste bien établie parce que tu vois, les gens, on essaie de leur laisser un max de liberté. Du coup, bah, quand tu veux réprimander quelqu'un, bah, c'est bon, bah, on m'a rapporté que c'était comme ça et qu'est-ce que tu fais, tu vois? C'est pareil, tu peux pas dire à quelqu'un, bah, je sais pas, quelqu'un dit, bah, j'ai travaillé 39 heures, on m'a pas payé mes congés, enfin mes heures supplémentaires, pardon. Bah oui, mais
Ouais.
c'est censé normalement, enfin, tu t'organises comme tu veux, mais du coup, bah, si tu as envie de travailler plus, évidemment, on va pas te dire non, tu vois, mais. C'est compliqué, tu vois, c'est tous ces aspects-là qui sont compliqués à gérer, mais je pense qu'ils font qu'on a réussi à aller super vite et à impliquer des gens, tu vois, on met en place des BSPCE tout de suite, donc les gens au départ de Abby déjà, et en fait ils se disent, bah, on les considère, tu vois, c'est parce que au début c'était une promesse, tu vois, on leur a dit, bah, vous aurez des parts, vous inquiétez pas, ça va se faire, juste ça a mis un an et demi à se faire parce
Ouais.
que, tu vois, c'est long, enfin, l'avocat et tout, il a vraiment mis du temps à déclencher le truc. Mais on a fait rétroactivement, tu vois.
Ouais.
Ils nous ont fait confiance, donc, tu vois, on n'a jamais trahi les gens. Et surtout, ce qu'on fait, c'est qu'on sait dire, on sait pas.
Ouais, ah oui, ça c'est hyper important.
Parce que des fois, t'as des gens, ils essaient de te faire des cabris dans tous les sens pour expliquer qu'ils savent mieux que les autres et tout. Si quelqu'un va me voir et je sais pas, je lui dis, bah écoute, je sais pas, je vais essayer de réfléchir, je te propose un truc, mais essaye de voir de ton côté, on confronte nos points de vue, tu vois. Parce que souvent, ce que les managers, les chefs d'entreprise et tout, ils pensent avoir tout le temps raison sur les trucs, tu vois. Alors que je pense que c'est la personne qui a le plus d'informations qui est censée prendre la meilleure décision. Donc c'est normal que tes équipes qui sont au quotidien au contact des clients, avec tout ça, bah t'apportes une meilleure vision. Ok, tu ne peux pas être d'accord avec eux, débattre, etc. Mais il faut comprendre pourquoi et pas dire juste non et on passe à autre chose, tu vois.
Ouais.
C'est vraiment.
Et je pense même qu'au niveau de l'équipe, c'est beaucoup plus rassurant quand on a affaire à un manager qui dit je sais pas, qu'à un manager on dit ah, il est en train de broder, je le sens.
Ouais, non, ça c'est clair. Et encore, nous, tu vois, alors je parle au nom de nous quatre, les cofondateurs, on est d'exécrable manager parce qu'on est entrepreneur à la base, tu vois, on n'est pas manager. Genre, je sais pas faire de la gestion RH, tout ça, c'est pas, enfin, tu vois, genre, c'est pas mon truc. Alors qu'on a recruté quelqu'un à la tête de l'expérience client qui a eu des expériences chez Leroy Merlin, Mexico, enfin, tu vois, des très grosses boîtes, elle a eu des 50, 30, 50 personnes à gérer. Bah, elle, c'est ultra
Ouais.
carré, tu vois, il y a des objectifs qui sont définis, c'est bien machin. Nous, on est dans l'équipe tech. L'équipe tech, c'est la foire, tu vois. Déjà, les techs, à la base, c'est compliqué à manager. Mais en plus, vu que c'est nous, bah, tu vois, on est au quotidien dans l'équipe. Du coup, c'est plus un petit délire deux potes qui font du code vraiment. Bon, après, on fait les choses sérieusement, tu vois. Mais ça ressemble plus à une bande de potes qui font du code dans un placard que vraiment à une équipe de managers, enfin, comme tu pourrais l'imaginer de manière un peu
Après,
plus classique, quoi.
c'est super cool d'avoir dit bah, que vous voulez vous différencier de ça et du management parce que bah, c'est vrai qu'on n'est pas, on n'aime pas tous et on n'est pas tous faits pour faire du management et que en général, les gens voient un peu le côté statut et ego boost de je suis manager et pas les downsides de OK. Et puis souvent, quand tu es manager et peut-être que tu l'as ressenti au début de l'équipe, je trouve que c'est très dur de faire l'unanimité et de dire. Tout est ok pour tout le monde tout le temps et il faut vraiment apprendre à pas être aimé de temps en temps.
Non mais c'est fou hein, parce que ouais, t'as des gens qui vont être l'un contre l'autre entre guillemets, qui vont pas être d'accord, et toi t'es obligé de faire l'arbitre
Ouais.
entre les deux et de dire bah non, enfin, et t'en as forcément un des deux qui va être compliqué. Après c'est aussi gérer, tu vois, la charge de travail. Il y a des gens qui, nous ça nous est arrivé déjà plusieurs fois, des gens prennent le travail tellement à bras le corps qu'en fait ils en empilent, ils en empilent, ils en empilent, et ils explosent complètement en plein vol, tu vois. Mais c'est pas de leur faute, c'est vraiment, ils étaient de bonne volonté, le projet les passionnait vraiment, ils avaient jamais vécu ça, tu vois. Et en fait, bah, ils supportent pas le fait d'accumuler, d'accumuler, et puis ils explosent en plein vol, tu vois. Et toi, t'es là, bah, tu te dis, c'est forcément de ta faute parce que t'as pas vu venir le truc. Mais d'un autre côté, c'était lui qui demandait aussi d'avoir prendre de plus en plus de choses en main, tu vois. Et au final, bah, t'arrives, bah, la personne, elle fait un burn-out, quoi. Et toi, t'es là, tu te dis, bah, c'est de ma faute, j'ai pas vu venir le truc. Comment on fait pour surtout pas que ça se reproduise, tu vois. C'est des choses qu'on est beaucoup plus vigilant maintenant, tu vois. Le fait de. Avant, ça nous arrivait d'envoyer des messages Slack le samedi, parce qu'en fait, nous, on bosse le week-end aussi, et on envoie des messages Slack, et des fois, il y avait des gens qui nous répondaient. Sauf que le truc, c'est pas ce qu'on leur demandait, tu vois. C'était vraiment un bloc-notes. Moi, je notais les idées, et puis le lundi, je m'attendais à ce qu'ils fassent ça. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que dans nos titres Slack, c'est qu'on met mes horaires ne sont pas les mêmes que les tiens. Sens-toi libre de reprendre Slack quand tu reviens au travail, tu vois. Vraiment de forcer les gens à se déconnecter, à se mettre en ne pas déranger, tu vois. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont, je pense, ultra importantes, surtout dans l'ère du télétravail, du fait d'être. Bah, tu passes de ton bureau à ta cuisine en une seconde, c'est peut-être pas le truc le plus émotionnellement stable, quoi, j'ai envie de dire.
Et sain, et surtout que dans les équipes, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que les équipes ont tendance à vouloir suivre le rythme et les codes de leur manager en disant, en fait, c'est la norme et c'est un truc un peu non dit, mais c'est des codes qui se font un petit peu comme ça dans le silence de si telle personne, on voit, comme tu dis, qu'ils écrivent des messages le week-end, bah moi aussi je suis impliquée, moi aussi j'envoie des messages le week-end
C'est ça.
et c'est dur d'arriver à faire tout ça.
Et surtout que nous, tu vois, comme je te disais, on est dans une équipe où bah, trois cofondateurs sont l'équipe tech. À côté, t'as des gens qui sont en CDI classique, et en fait, ils voient des gens qui codent le dimanche soir à 22h. Enfin, tu vois, nous, ça nous arrive des fois de faire des nuits blanches. Parce qu'il faut déployer un truc, il faut que le maximum de clients, enfin le minimum de clients soient impactés. Du coup, on bosse, on finit la mise à jour, il est 4h du matin, tu vois. Et en fait, d'un autre côté, ça montre aux gens, bah, c'est des gens qui sont vraiment là pour tryhard, tu vois, vraiment d'être à fond dans le truc et on ne le fait pas à moitié. Et du coup, ça montre aux gens qu'on est bah, déjà passionné par le projet, qu'on est à fond dedans et que c'est pas en mode on est là pour faire de l'argent, on vous regarde vous débattre un peu dans la fosse au lion, et puis nous on est là à côté, on fait que du kiff et c'est
on ramasse l'argent.
Non mais c'est ça, non mais et il voit vraiment qu'on est là et qu'on est au même niveau et qu'on est là pour tout déchirer quoi, tous ensemble.
Trop bien, trop cool. Alors moi j'ai une question qui a pas grand chose à voir, mais c'est plus tourné sur toi. Parce que là, on a beaucoup parlé de la dynamique d'équipe et c'est trop intéressant. La question, c'est... Mon podcast, le titre, c'est Ascenseur émotionnel. Mm-hmm. Quand je te dis ascenseur émotionnel, qu'est-ce qui te vient en tête?
Les montagnes russes. Un peu vraiment le... Bah, c'est ça, c'est... Ça raconte vraiment l'esprit d'entreprendre. C'est un jour, c'est... Tu pètes le feu, enfin, t'as tout qui va bien. Et t'arrives la semaine d'après, t'arrives le lundi... Et t'as 10 mails qui te disent que ça va pas, t'as 5 personnes qui viennent te voir pour te dire ça va pas, on va... Et en fait, avoir l'impression que la boîte, elle va exploser en plein vol. C'est ça, ça m'arrive vraiment souvent, tu vois. Tu vas dans des services qui marchent... Enfin, nous, par exemple, le marketing, en ce moment, ça marche bien. Et le service client, un peu moins. Enfin, c'est pas que ça marche moins, enfin, c'est un peu plus en difficulté que le marketing. Et en fait, je vais dedans, et là, je me dis, oh là là, mais c'est pas possible. Demain, on va mettre la clé sous la porte, quoi. Tu vois, c'est...
Qu'est-ce qui va se passer ?
On a trop de problèmes. C'est vraiment, tu vois... Et c'est ça, vraiment, l'ascenseur émotionnel, c'est... Ouais, les hauts, les bas, les très hauts, les très très bas. Et puis, quand c'est très haut, c'est des émotions de ouf. Quand c'est très bas, c'est des émotions aussi de ouf. Mais il faut savoir un peu plus les gérer et pas retransmettre, tu vois, le... Ah, c'est ça, le truc, quand t'es entrepreneur, c'est pas retransmettre tes émotions perso à l'équipe, tu vois. Ou du moins peut-être aux managers qui sont peut-être un peu plus en mesure de comprendre. Mais si tu vas voir quelqu'un à qui tu discutes un peu moins directement, tu vois, moi il y a des personnes, je leur parle quasiment jamais. Si je vais leur dire, écoute, là je pense que la boîte elle va pas bien, on va se cracher demain, ils vont aller chercher un CDI ailleurs, enfin tu vois, ils vont se dire, c'est où je suis, tu vois.
Ouais, ils vont avoir peur.
Ouais, ils vont prendre peur, tu vois. Et du coup, bah, c'est vraiment ça, c'est ascenseur émotionnel, mais il faut savoir bien le maîtriser, tu vois, pour pas que ça se ressente dans tous les sens, quoi.
Et c'est ça aussi, moi il y a beaucoup des personnes quand j'accompagne les CEO que j'accompagne, c'est le sentiment de solitude qui peut s'installer. Mmh. Alors toi tu as des cofondateurs, tu me diras si ça t'aide, mais ce côté-là, il y a des très hauts, des très bas. Et y a un truc, c'est les victoires en général, les gens les prennent c'est notre victoire à tous, c'est l'équipe. Mmh. Et les échecs, les managers ou les cofondateurs les prennent de façon, c'est ma responsabilité. Du coup ma question c'est, toi déjà, personnellement, qu'est-ce qui te génère le plus de plus haut, que tu dis, waouh, non mais là c'est incroyable, c'est quand tu te sens en mode, je suis au top du top, et qu'est-ce qui te génère les émotions les plus basses et les plus intenses émotionnellement dans ton quotidien?
La même chose, les clients.
Les clients.
C'est vraiment, tu vois, quand, en fait, c'est le fait de... Enfin, les clients directement avec l'équipe, tu vois, nous ce qu'on fait, c'est qu'on aime bien partager des messages positifs, pour notamment la team qui est au support client, qui en général voit beaucoup de choses négatives. On partage sur Slack des messages positifs de clients qui disent, vous m'avez changé la vie. Ça, tu vois, ça c'est le truc, c'est bête, c'est des trucs quotidiens, tu vois, mais ça montre que en fait tu vas dans la bonne direction, que tu es en train de créer un truc de ouf et que ça va vraiment changer la vie, tu vois. Il y a aussi un autre truc, c'est que on commence à avoir de plus en plus de mamans dans la team, enfin qui deviennent mamans dans la boîte, et ça c'est aussi une victoire, parce que tu te dis, ta boîte fait tellement confiance que les gens sont certains qu'ils peuvent se mettre en congé maternité, en congé paternité.
Bah ouais, c'est hyper rare.
Et reprendre leur place, tu vois, comme c'était. Enfin, comme ils étaient avant de partir, tu vois. Et ça, c'est. Tu te dis, moi j'ai que 26 ans, tu vois, la boîte elle existe depuis 3 ans. C'est ouf d'arriver à faire ça, tu vois. C'est. De nourrir les gens tous les mois. Enfin, tu te dis, nous, il y a 50 000 euros de salaire qui partent tous les mois. Tu te dis, ça nourrit des familles entières. Enfin, ça, c'est vraiment les trucs tout bêtes, mais qui. Tu vois, la levée de fonds. Par exemple, on fait des grosses levées de fonds. Enfin, on a fait une levée de fonds d'1,2 million. En fait, t'arrives, tu l'annonces dans les journaux, ça te fait pas grand-chose, parce qu'en fait, c'est le process complet qui est plus intéressant. Tu vois, que tu te dis, on a pitché 5-6 fois le projet. C'est vraiment, quand on dit le chemin, c'est le plus important, plutôt que l'arrivée et de dire, c'est comme une course, tu vois, je fais beaucoup de running. La course, c'est pas le truc le plus important, c'est vraiment tout ce qu'il y a eu avant, toute la prépa, quand t'as été courir, il fait moins 2 degrés, il pleut.
Et tu sais pourquoi
t'es arrivé. Bah, tu vois, c'est tous les moments-là. Et du coup, à l'inverse, c'est quand, tu vois, on a souvent des commentaires sur les réseaux, on a un petit peu un problème d'organisation support client, c'est que des fois, il y a des messages qui passent à la trappe. Parce qu'en fait, vu qu'on est multicanal, il y a des messages, tu vois, ils arrivent, et juste on les capte pas, c'est pas qu'on veut pas répondre, c'est qu'on les a pas. Enfin, tu vois, ils sont pas là, ils remontent pas au bon endroit. Et t'as des gens qui disent, le service client est inabsent, c'est inadmissible et tout. Et toi, t'es là, tu te dis, mais je fais mon maximum tous les jours pour... Tu vois, vraiment, on est customer-centric, on le dit pas juste pour... C'est vraiment... quand on développe quelque chose, on a demandé l'avis à nos clients, on l'a design avec eux, on a même un truc pour suggérer des idées où il y a énormément de gens qui participent, qui votent et tout. Tu vois, c'est vraiment, on a cette vision client, on fait des interviews, les prix, même les prix, on les a construits avec notre communauté. On a fait un live où il y avait, je me souviens, 300 personnes, je crois, quand on est passé de la version complètement gratuite à une version avec des abonnements. Et on a design les plans avec la communauté, enfin, tu vois, pour te montrer le niveau d'implication. Et en fait, quand tu vois qu'il y a des gens, il y a eu un problème, alors c'est bien, tu t'améliores, mais là, ça, enfin, tu vois, ça met vraiment un coup au moral, quoi.
Ouais,
Tu te
je
dis,
comprends.
et là, faut réagir, faut passer le cap, quoi. Et puis ça arrive de plus en plus souvent, vu qu'on a de plus en plus de...
Bah forcément, tu multiplies les
Tu
problèmes.
multiplies les problèmes. Parce qu'avant, tu vois, t'avais un problème sur 100 conversations. Maintenant, t'as deux problèmes, mais sur 300. Tu vois, et
Ouais.
en fait, bah, vu que t'as de plus en plus de conversations, bah, t'as de plus en plus de problèmes, simplement.
Et du coup, comment est-ce que tu fais toi pour lâcher prise ou aller mieux en tout cas dans ces moments-là? Est-ce que t'as des trucs qui te font du bien?
Ouais. Bah, déjà, j'écoute beaucoup de musique, moi. Du coup, j'essaie de mettre des trucs un peu calmes quand ça va pas, pas trop. Parce que j'ai vraiment un panel d'écoute assez. Ça va de la techno au piano.
Et le reggaeton?
Et le reggae,
Ah ouais, bon bah ça va.
reggae, rap, rock, en fait j'écoute de tout, sauf peut-être du metal ou peut-être un peu moins. Du coup piano, hop, et on se calme avec du lofi, des pianos, des trucs comme ça. Et après moi je fais beaucoup de sport. Ça c'est vraiment le truc, bah tu vois, si j'ai une journée vraiment pourrie, d'habitude je reste assez tard au bureau, parce que c'est un peu le problème, c'est que tu vois, il y a toujours un truc à faire. Je vois jamais de... Tu vois, les gens ils disent, bon bah voilà, j'ai fini mes heures, je rentre chez moi. Bah moi c'est j'ai fini mon boulot, bah non mais il y a encore un autre truc, tu vois, et en fait tu prends,
Infini.
c'est infini, enfin, c'est vraiment, c'est ma mère elle me dit, mais c'est quand que ça sera fini Abby? Bah je lui dis, mais je pourrais mourir que ça continuera encore, parce que tu vois, il y a toujours des idées, des trucs à faire, et du coup voilà, c'est un peu ça, donc ouais,
Le
principalement
sport.
le sport, ouais.
Donc le sport, c'est la course. La salle aussi, je crois.
La course, la salle, je fais de la danse et un petit peu de natation.
Ok.
J'aimerais bien me mettre au triathlon,
Bientôt.
ouais, bientôt, ouais. J'ai un objectif d'Ironman, donc il faut bosser un peu.
Ça va faire des semaines bien chargées.
Oui.
Et au niveau de ton entourage, parce que ça c'est une question qui revient souvent aussi, toi, comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es entouré, par exemple, est-ce que tu es en couple et c'est un soutien? Est-ce que c'est principalement tes amis, ta famille, tes cofondateurs? Comment est-ce que tu vis ça justement de dire, bah, tu es entrepreneur, tu es dans ta bulle, dans ton projet, tes horaires, de rester connecté, tu vois, et de sentir que tu es trop bien entouré?
Ouais, bah moi c'est vraiment mes cofondateurs. Ce qu'on a réussi à faire, c'est garder une relation d'amitié aussi, en plus du travail, tu vois, on peut se retrouver, on fait des jeux de société jusque 2h du matin, des soirs, et en fait on parle pas de boulot. C'est vraiment, on est dans notre truc, on a une console, tu vois, on peut faire des enfin, tu vois, vraiment on arrive quand même à... Bah, il y a aussi le running, tu vois, des fois on fait des sorties ensemble, enfin, on arrive à avoir cette relation amicale, en plus de la relation associée. Et par contre, quand il y a des moments... Tu vois, des fois, il y a des moments où on se fait des réunions tous les quatre pour parler entre associés. Là, on va pas parler de notre sortie du dimanche, tu vois. C'est
Ouais,
vraiment...
carré.
On parle de la boîte, on parle de notre vision, tu vois, d'être aligné. Parce que si t'en as un qui dit A, t'en as un autre qui dit B, l'autre qui dit C et l'autre D, l'équipe, elle est perdue, tu vois. Donc, vu qu'on est quatre, faut qu'on s'aligne quand même souvent. On a la chance d'être très aligné en termes d'objectifs business, de où on veut aller et tout. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et je pense que c'est pour ça que on est toujours quatre, parce que ça fait du coup 8 ans qu'on bosse ensemble,
Mais c'est ça, ouais,
à peu
quatre
près.
personnes.
Ouais. Et la première chose qu'on nous a dit, c'est, les gars, vous verrez, dans 1 an, vous serez trois, dans 2, vous serez deux, et peut-être dans 4, vous serez tout seul, quoi. Bon, ça fait 8 ans, on a réussi à prouver le contraire, mais c'est vraiment, je pense, le fait qu'on soit ultra potes avant. On a fait plein de trucs, tu vois, on est partis aux États-Unis tous les quatre, on a, enfin, vraiment,
Ouais, c'est trop
on a
stylé.
fait toutes les conneries inimaginables possibles.
On veut la liste.
Non, je tairai toutes les conneries, mais tu vois, enfin, vraiment, on a vécu des moments de ouf. C'est, tu vois, genre, c'est pas l'aventure de la boîte que je retiendrai de tout ça, c'est vraiment tous les moments qu'on a vécu à côté. Alors évidemment, l'entreprise, elle permet de vivre aussi des trucs comme ça, parce qu'on gagne de l'argent, parce que machin, machin, mais le fait d'avoir vécu des trucs à côté, c'est vraiment, tu vois, si je devais me souvenir de trucs, c'est ça, c'est pas... Le travail, au final, bon, il faut le faire, tu vois. Moi, j'ai de la chance d'avoir jamais l'impression de travailler, parce que t'arrives, t'as tes trois meilleurs potes qui sont dans la même pièce que toi le matin, bah forcément, ça,
C'est
c'est
trop
un peu,
bien.
c'est cool, tu vois, mais ouais, voilà, c'est vraiment ce truc-là. Et après, tu disais, bah moi, je suis plus en couple, par contre, je l'ai été longtemps, pendant 10 ans quasiment. Le truc, c'est que ça a été un peu à plusieurs niveaux. C'est, au fait, au début, elle était vraiment très dans le soutien. Et en fait, la boîte, enfin, quand j'ai lancé Abby, ça a commencé à prendre énormément de place. Et là, ça a été tout l'inverse. C'était vraiment elle vs la boîte, tu vois. Genre, c'était très compliqué pour moi de... Bah, d'en parler à la maison. Bah, en fait, c'était même pas un sujet dont on pouvait discuter parce que elle avait l'impression que la boîte lui volait... Enfin, me volait, tu vois, auprès d'elle, tu vois. C'est ça, le temps, tout ça. Bon, après, je pense que c'était plus non plus la personne qui me correspondait à cette époque-là. Et le fait d'être à fond dans la boîte m'a, tu vois, mis une barrière en mode « Ok, je m'occupe pas de ce problème et je le gérerai plus tard.
Okay. »
Au final, c'est bien parce que c'est elle qui a pris les choses en main et on s'est séparés. Mais je me disais, tu vois, en fait, c'est pas un truc que j'ai envie de m'occuper inconsciemment. Évidemment, je le faisais pas consciemment, mais tu vois, c'était vraiment un truc que je mettais sur le côté. Et je me disais, là mon focus, c'est la boîte. Je peux pas gérer ça en plus niveau émotionnellement, c'est trop compliqué, tu vois. J'ai mis un mur et je me suis pas occupé de ça. Donc ouais, c'était la partie là, c'était assez compliqué quand même, parce que tu te dis t'es censé quand même attendre un soutien de la personne avec qui tu partages ta vie, et au final c'était un peu tout le contraire. Et après, bah, du côté de ma famille, là c'est là où c'est le plus compliqué, parce que personne n'est entrepreneur. Ma maman, elle est comme toutes les mamans, elle a peur. Quand tu lui dis, on va lancer un produit, il est gratuit, t'inquiète, ça va bien se passer.
C'est la question de tous les parents. Mais comment tu fais pour vivre?
Oui, c'était un peu... C'était ça son inquiétude au début. Mon père, il a été entrepreneur, sauf que ça s'est mal passé. Il a repris la boîte de mon grand-père qui avait énormément de dettes. Enfin, bref, et au final, il a un peu croulé sous les dettes et maintenant, il rembourse jusqu'à, je pense, la fin de sa vie. Tu vois, et du coup, il a une vision de l'entrepreneuriat qui est quand même un peu dégradée. Même s'il est toujours entrepreneur, tu vois, il travaille tout seul, il a eu quand même 30 salariés, tu vois, donc il a une grosse boîte, il construit des serres. Donc 30 salariés pour construire des serres, c'était quand même un gros truc. Et lui, tu vois, il était vraiment en mode, mais pourquoi tu prends pas un job où t'es tranquille? Enfin, tu vois, ma mère, c'était, va te mettre au Luxembourg, tu gagneras plein d'argent. Non, je veux pas faire ça. Je préfère.
Et je fais quoi?
Non, mais vraiment, au début, tu vois, on se payait 500 euros par mois. Et on a toujours vécu, au début, dans la galère, enfin, dans la galère entre guillemets, parce qu'il y avait nos parents qui nous aidaient et tout, mais tu vois, on pouvait pas faire. On voyait nos potes qui avaient pris des CDI en ingé, qui gagnaient 3-4 000 euros dès la sortie parce qu'ils étaient au luxe et tout. Et toi, t'es là, t'es à 500 euros et tu te dis, mais ça va bien se passer. Et
c'est vrai, faut y croire, il n'y a plus qu'à y croire.
Non, mais c'est ça. Et donc voilà, c'est, tu vois, c'est très. C'est pas du tout homogène, quoi. Il y en a vraiment dans tous les sens. Et je pense que le fait qu'on soit quatre, c'est ça qui fait que c'est ouf, quoi. Et on en est là actuellement.
C'est trop bien. Ouais. Vous pouvez vous répartir les petits moments de down, en parler, célébrer les succès tous ensemble.
Ouais, de ouf.
C'est trop cool. Est-ce que on passe au jeu des questions?
Allez, c'est parti.
Ok, je te laisse en tirer une.
À qui ne dis-tu pas assez je t'aime? Alors ça, c'est assez simple à répondre, c'est à mon frère.
À ton frère, ouais. Il est plus grand ou plus petit?
Plus petit.
Ok.
Ouais, il est plus petit. En fait, on se disait jamais je t'aime. Et je m'en suis rendu compte, parce que je suis une thérapie aussi. Et en fait, tu vois, le fait de l'extérioriser, ça... Tu vois, de lui dire que je serai là pour lui, que... Autant, tu vois, avec ma mère, c'est naturel, je pense, on le fait depuis toujours. Mon père... Un peu, mais moins, tu vois. Mes grands-parents, pareil. On n'est pas très expressifs en termes d'émotions, tu vois. Mais je sais que mon frère, tu vois, il avait besoin de ça parce qu'il est tout le temps en train de m'appeler. On habite à 300-400 km l'un de l'autre, donc on se voit pas souvent. Vraiment, j'essaye de le faire plus souvent. Mais c'est pas facile au début, hein, quand ça fait... lui, il a 20 ans, tu vois. Quand c'est la première fois, tu te dis,
Il y a la pudeur. Je t'aime, salut.
C'est un peu comme ça que ça s'est passé, mais c'était vraiment, je pense que c'était important pour lui, tu vois, de l'entendre, de savoir, je suis là, t'inquiète, ça va bien se passer, on est ensemble, et parce que mes parents se sont séparés, lui, tu vois, il a été très affecté par ça, et j'ai toujours eu ce rôle d'être le grand frère, en fait, un peu partout, je pensais à ça l'autre fois, dans ma vie, j'ai toujours été celui qui dit, t'inquiète, ça va bien se passer, mais à tout le monde, tu vois, genre, et le fait de le faire, c'est usant, enfin, tu vois, émotionnellement, ça prend de l'énergie, ça...
Et tu faisais l'éponge un peu émotionnel.
Ouais, c'est ça, ouais, parce que lui, il a été très affecté par la séparation de mes parents, et moi, j'étais là, tu vois, on faisait plein de trucs ensemble, et je pense que de le savoir, tu vois, ça lui a fait du bien aussi, d'un côté.
Ok, et toi, qui c'est qui te dit, t'inquiète, ça va bien se passer?
Nicolas, mon associé.
Nicolas, ton
associé. Ouais, lui, il est 2 ans plus vieux que nous. Et lui, c'est un peu le daron de la bande, tu vois.
Pour 2 ans.
Non, mais vraiment, genre, il a... Alors, je pense que ça vient de son père, qui est très protecteur, très, tu vois, genre, une figure paternelle, vraiment, la plus classique que tu peux voir quand, si tu décris ce que ça doit être un père. Tu vois, vraiment, c'est le daron par excellence. Et du coup, vraiment, Nicolas, c'est... tu vois, bah lui, du coup, il a un peu ce rôle que j'avais eu avec mon frère. Et du coup, bah, tu vois, il est tout le temps en stress, il a tout le temps peur. Enfin, et il nous le fait pas trop sentir, même si quand même il en parle, tu vois. Mais dès qu'on a un problème et qu'on sait pas, Nico, là on a un problème, on fait comment? Et tu vois, on en discute, il nous rassure, il nous dit ça va bien se passer et tout. Parce que lui, il a l'avantage de pas être non plus dans l'opérationnel tous les jours, tu vois. Et quand t'es pas dans l'opérationnel, tu vois la boîte plus en mode vraiment gestion, chiffres, ok, on gagne de l'argent. Alors que toi, bah, quand je te parlais du service client tout à l'heure, t'es là, tu te fais insulter toute la journée, tu te dis, ouais, bon, ça va pas si bien que ça, en fait.
Ouais, et tu manques de recul.
Et quand tu regardes, ouais, c'est ça, et quand tu regardes de manière macroscopique, ça se passe bien, tu vois, ça se passe même très très bien, quoi.
Mmh. Ouais. Bah, c'est trop mignon, peut-être tu pourras envoyer cet épisode à ton petit frère.
Peut-être.
Je t'en laisse en tirer une autre.
Yes. À qui aimerais-tu dire merci et pourquoi? Bah, je pense à ma mère. Mmh. Parce que bah, elle s'est sacrifiée. Elle a voulu des enfants, mais tu vois, elle s'est vraiment sacrifiée pour nous. J'ai eu la chance de faire une école d'ingé, bah, vraiment bien, qui coûtait quand même 40 000 euros. Et tu vois, je sais que elle me l'a payée. Elle voulait pas que je parte dans la vie avec, tu vois, genre un boulet au pied de 40 000 euros, tu vois, vraiment. Et elle s'est saignée. Elle sortait pas. Elle a vraiment mis tout son argent pour que je réussisse, mon frère également, tu vois, vraiment, elle a vraiment assuré là-dessus. Mon père est parti, il nous a laissé un peu en plan pendant quelques temps avec elle. Du coup, vraiment, tu vois, elle a pris son rôle de maman à fond, quoi. Et le truc, c'est que je sais que j'en serais pas là actuellement si elle m'avait pas apporté tout ça, parce que bon, j'aurais pu aller à la fac, mais tu vois, je sais que c'est pas quelque chose qui me correspondrait, j'aurais franchement pas bien tourné, je pense, parce que déjà au lycée, tu vois, je commençais, j'ai quand même été affecté par la séparation, tu vois, j'ai quand même, rien qu'au niveau du poids, j'ai pris peut-être 50 kilos pendant la période là, donc tu vois, c'est quand même un signe que ça allait pas forcément super bien, même si mode éponge, non, tout va bien, vous inquiétez pas, nickel, mais quand tu regardes rétrospectivement, pas forcément sûr, ouais, c'est ça, ouais, du coup, elle a toujours été là. Peut-être même un peu trop maintenant, parce que du coup, elle est très protectrice, enfin, tu vois, et j'aime bien lui dire, enfin, tu vois, quand elle me parlait de ma boîte, je lui dis, mais maman, tu te rends compte, à mon âge, t'allais m'avoir, t'allais avoir un enfant, tu vois, un truc à t'occuper tous les jours, moi, c'est juste une boîte, enfin,
c'est tellement moins de...
C'est rien, tu vois, enfin, ça représente rien, c'est pas un humain que t'es en train de créer et tout, tu vois, et du coup, ça lui... Ah oui, effectivement.
Ça met la perspective.
Un petit peu, ouais.
Et avec ton père, t'as repris une relation?
Ouais, un peu plus depuis 2-3 ans. Bah lui, le truc, c'est qu'on n'a jamais parlé, il a commencé un petit peu à m'en parler il y a 5 ans, quand j'étais un peu plus grand, tu vois. Mais il y a eu des gros dindes avec mon grand-père, où il y a eu plein de problèmes d'argent notamment. Et en fait, lui, il s'est retrouvé un peu en mode abandonné, tu vois. Mon oncle, il travaillait avec lui, il est parti. Il s'est retrouvé, tu vois, complètement tout seul. Et bref, il a mal tourné, et puis on n'a pas réussi à en parler à ce moment-là, tu vois, pas se comprendre, je pense. Et puis, il est parti, ils avaient mis de l'argent pour mes études, justement, de côté avec ma mère depuis qu'on était né avec mon frère. Et en fait, il a tout pris pour faire on ne sait pas trop quoi. Enfin, tu vois, il y a eu beaucoup de trucs, et ça a été compliqué d'en parler, et puis maintenant, ça va mieux, quoi. Enfin, j'ai grandi, En fait, le truc, c'est que maintenant, j'ai compris que ça servait à rien que je me mette à la place des autres et essayer de comprendre ce qu'ils pensaient et tout. Moi, je vis ma vie. Les gens, ils veulent bien me parler. Ok, c'est cool. S'ils veulent pas me parler, c'est pas grave. Tu vois, j'ai des parties de ma famille où ils m'envoient jamais de messages. Bon, je vais pas tout le temps aller les voir pour savoir. C'est tout. C'est qu'on doit pas se parler. Et puis, c'est comme ça. C'est pas parce que c'est de la famille non plus. Tu vois, ça, c'était un truc qui était un peu compliqué. C'est pas parce que c'est ta famille que forcément, tu dois avoir des relations. Moi, je sais que j'ai toujours été très tourné amitié et tout. Enfin, j'ai des relations ultra fortes avec mes amis. Enfin, tu vois, c'est mes frères, vraiment, c'est un des frères en plus de mon frère de sang. Mais donc voilà, c'est plus comme ça, tu vois. Ça a été long à accepter de se dire, faut faire à la part des choses, quoi.
Ouais, c'est hyper intéressant. Et tu vois, quand tu parlais là de justement que ton père en parlait pas forcément, enfin voilà, c'est difficile des fois d'aborder des sujets. Et t'as parlé un peu de que ça allait pas quand il y a eu la séparation, ta prise de poids. Tout à l'heure, t'as mentionné la thérapie.
Ouais.
Sans, si tu veux pas parler de pourquoi, déjà, c'est un sujet qui peut être assez tabou, encore plus dans l'entrepreneuriat, tu vois. Le fait, surtout que, je sais pas, mais il y a vachement cliché, de, encore plus pour les hommes, ouais. T'es entrepreneur, c'est le loup de Wall Street, et tu t'en fous de tout, et tu dégommes tout, et les émotions, on les met de côté. Du coup, toi, peut-être, avec les choses que tu as envie de partager, qu'est-ce qui t'a donné le déclic et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, en fait ?
Le truc, c'est que je pense qu'il y a eu beaucoup de... Le débat était pas mal ouvert depuis le Covid, quand même. Ça, c'est un truc... tu vois, il y a eu des dispositifs, bon, même s'ils sont pas parfaits. Mon psy, j'ai vu que ça avait été augmenté il y a pas longtemps, donc ça, c'est cool. Mais tu vois, il y a eu beaucoup de débats qui ont été ouverts depuis le Covid. Et en fait, je me suis dit, mais... Je sentais que c'est un espèce de brouillard mental, tu vois, vraiment le truc de t'es là, t'as plein d'idées, tu sais pas trop les ranger. Et moi, ce que ça m'apporte, enfin, j'ai plutôt passé par la conclusion pour expliquer, c'est vraiment l'impression d'avoir des cases qui se rangent au fur et à mesure, tu vois, de se dire, oh, bah voilà, l'idée là, elle me perturbait, elle tournait au fond de ma tête. Mais tu sais, c'est toujours inconscient, tu te dis pas, je suis en train de penser à ça jour et nuit, machin, ça m'obsède.
C'est un petit bruit de fond.
Non, mais c'est ça, c'est vraiment l'image du bruit de fond, le truc, le brouillard, tout ça. Et en fait, d'avoir ça, bah, j'en parle avec quelqu'un qui est complètement extérieur à ce que tu es en train de vivre. Et en fait, elle te dit, bon bah voilà, ça c'est plus parce que tu te projettes. Tu vois, ça a été beaucoup par rapport à ma famille aussi. Je me sentais beaucoup coupable, tu vois, de... Je suis à Nancy et en fait, à chaque fois, bah, faut que je rentre. Et il y a des fois, bah, pendant un mois, deux mois, je suis vraiment... Je travaille tous les week-ends. Enfin, tu vois, je suis assez focus sport et tout. Je me dis, bah, en fait, si je commence à aller dans tous les sens, je vais pas réussir ce que je me suis fixé. Des fois, il y a des moments où il faut rusher, bah, c'est comme ça. Et tu vois, le fait de pas rentrer, ça me faisait beaucoup culpabiliser. De me dire, bah, en fait, eux, ils sont tout le temps en train de m'appeler, de me solliciter et tout. Et moi, tu vois, j'ai plus l'impression d'être à l'opposé, plus de me barrer dans l'autre sens. Enfin, tu vois, c'était vraiment. En fait, j'avais plein de trucs comme ça qui me trottaient dans la tête. Et je me suis dit, bah, vas-y, je vais tester. Et en fait, bah, au final, je m'en suis remis à parler de sujets, mais le premier, tu vois, je me suis dit, je vais parler de ça. Et le premier truc que j'ai évoqué avec la personne, c'est que quand j'étais petit et encore maintenant, j'ai peur de mourir. Vraiment, j'avais peur de mourir, tu vois.
Okay.
Et c'est le premier truc qui est sorti. Je me suis dit, vas-y, j'y vais pour parler de problèmes que j'ai eus, d'écueils que j'ai subis. En fait, c'est le premier truc qui est sorti. Je sais pas pourquoi, enfin, tu vois, c'était complètement... En fait, je me disais que j'aurais jamais le courage de parler et bah, je suis tombé sur une personne qui m'inspirait confiance. Alors, je sais pas pourquoi, mais tu vois, j'ai toujours voulu que ce soit une femme. Pas un homme, sûrement par pudeur ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment... Il fallait que ce soit une femme. Je pense peut-être plus pour le côté maternel, tu vois, vu que j'étais plus proche de ma mère, tout ça, il y a peut-être ça qui rentrait en jeu. Et en fait, bah, la personne, j'ai eu confiance directe en elle. J'ai vu que c'était quelqu'un de bien... Enfin, tu vois, que ça avait l'air d'être quelqu'un de bienveillant et tout. Et en fait, bah, du coup, bah, voilà, on a parlé de ça pendant 2-3 séances. Et puis bah, maintenant, j'y vais tous les 2 mois, tous les trimestres, enfin ouais, tous les 2 mois. Puis bah, des fois, tu vois, tu tournes un peu en rond, tu sais, mais ça fait du bien de, tu vois, de discuter, de prendre les idées qui te passent, de les mettre. Et, puis de... et vraiment, maintenant, ça va. Alors, il y a beaucoup de choses qui font que ça va mieux. Il y a le sport, il y a le machin. Mais tu vois, c'est vraiment un cercle vertueux, je trouve. Ouais. Et ça va vraiment beaucoup mieux depuis, ouais, bah, je dirais 6 mois. Puis il y a le fait aussi que j'y allais pour ma séparation. Tu vois, c'est un truc... c'est pareil, je me suis dit... Je me souviens, quand elle est partie, je me suis dit, je veux pas être comme tout le monde à galérer à aller mieux. Je vais mettre, tu vois, je me suis remis dans la muscu à fond. Je me suis dit, je vais me mettre dans le sport et tout, ça va aller mieux. Je vais surmonter ça rapidement. Et en fait, bah, ça a pris 2 ans. Et j'étais pas forcément mal à en pleurer et tout, mais tu vois, genre... Juste de me dire, c'est bon, c'est fini, j'ai tourné la page. C'est vraiment récemment, là, on est en train de refaire la maison. Et bon, bref, on s'était mis d'accord sur un truc. Au final, elle est pas d'accord, elle est plus d'accord, machin. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, regarde, c'est bien ce qui t'est arrivé, tu vois. Et j'ai réussi à ne pas ressentir de... Avant, j'aurais été en colère, tu vois, je l'aurais appelé, on se serait embrouillé et tout. Maintenant, j'ai dit, bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Ouais. C'est que ça devait se passer comme ça. J'ai pas ressenti d'émotion, et là, je me suis dit, c'est bon, ok.
J'ai tourné la page.
Ouais. Mais ça a pris 2 ans.
Ça a
pris 2 ans. Et pourtant, j'en voulais que ça en prenne un mois, quoi.
C'était... J'imagine très bien le truc qui est aussi très masculin de vas-y, je vais faire du sport, la muscu et tout, ce qui fait du bien, mais qui veut pas forcément dire que tout va se régler.
Non, il faut du temps. Enfin, vraiment, quand on dit qu'il faut du temps, c'est pas un... Tu vois, c'était vraiment ça. Je voulais pas croire au fait qu'il fallait du temps, mais si.
deux ans.
Non, mais 2 ans, mais t'as pas le choix. C'est pas humain de. Tu vois, les émotions, c'est pas du tout la même chose que. En fait, c'est ça le truc, c'est que ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, c'est très. Enfin, pas binaire, mais un peu comme ça. Tu vois, c'est vraiment. Ça marche pas. Oui, non, on passe à autre chose. Tu vois, il y a pas. T'attaches beaucoup moins d'affect à ce que ta boîte, elle est. Enfin, quoique ça peut se discuter, que à ta vie. Et du coup, bah, en fait. T'es plus impliqué émotionnellement. Enfin, on a quand même construit 10 ans. T'as la famille de ta copine, t'as. Enfin, tu vois, genre.
Ouais,
les amis en commun.
Et je trouve que dans les ruptures, c'est non seulement tu dis au revoir au passé, tu vois, et au quotidien que tu vis avec la personne, mais je trouve qu'il y a un truc qu'on parle pas beaucoup, c'est que c'est tu dis au revoir aussi à tout le futur que t'avais projeté avec cette personne.
Ouais.
Et donc, c'est se reconstruire ça, c'est dire, ok, ça va pas, mais je vais re-avoir confiance que je peux retomber amoureux, que je peux retrouver quelqu'un de bien, et c'est ça aussi qui est des fois qui est pas facile et que ça met du temps, quoi.
Et puis aussi un truc que j'ai appris, c'est surtout pas essayer de reproduire ce que t'as vécu avec la personne avec une autre personne, tu vois. Tout le monde est différent, tout le monde a des choses différentes à t'apporter, et surtout en fonction de là où t'en es dans ta vie, t'as besoin de choses qui sont différentes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se séparent en bon terme, parce que juste ils se rendent compte qu'en fait ils se correspondent plus au moment où ils en sont, tu vois. On aurait pu arriver à ce passage là avec la personne avec qui j'étais, mais je pense, tu vois, de pas avoir eu le courage d'en parler. Ça, c'est un truc, c'est assez ouf. C'est côté personnel, vraiment, je fuis tous les problèmes. c'est un truc, tu vois, genre tous les trucs qu'il faut pas parler. Hop, je mets ça sous un tapis.
Hop, le petit non-dit.
Tu vois, j'aime pas les clashs et tout. Alors que côté professionnel, je m'en fous. Tu vois, on peut s'embrouiller comme des poissons pourris avec mes associés. Alors déjà, on sait pourquoi on le fait. Il y a jamais d'émotion. Enfin, il y a jamais d'émotion. Tu peux pas dire il y a jamais, mais il y a quand même une barrière qui est faite entre « Ok, on s'embrouille parce que là, on n'est pas d'accord pour la boîte » et parce que c'est notre amitié qui est... Et ça, on arrive, tu vois, on peut s'embrouiller pendant une heure et une heure après, jouer à Rocket League ensemble. Enfin, tu vois, c'est vraiment genre... on arrive à faire cette part des choses et côté personnel, on verra ça plus tard. En fait, on verra jamais plus tard. Et du coup, bah, ça s'accumule. Et puis, au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi, t'exploses. Et je pense que c'est ça aussi pourquoi j'ai commencé...
La thérapie.
Ouais. Parce qu'au bout de 26 ans, putain, je pense qu'il faut, ouais, faut en parler. Enfin,
ouais,
tu vois,
voilà. D'avoir un espace et puis de toi être sain pour toi et puis d'être, quand on rencontre d'autres personnes et tu vois, là, t'as parlé du couple, d'être une source saine aussi pour l'autre personne, c'est
clairement
trop cool, quoi.
Ouais, ça c'est intéressant ce que tu dis de, tu vois, maintenant, je cherche enfin, avant, c'était plus en mode, il me fallait quelqu'un pour vivre. Maintenant, c'est je veux m'augmenter, tu vois, en tant que personne, avec quelqu'un qui va aller me pousser à faire des trucs différents, à vraiment me sortir de ma zone de confort. Alors qu'avant, c'était vraiment, tu vois, le confort créé par le fait d'avoir une autre personne. Alors que maintenant, tu vois, j'ai appris à vivre tout seul, parce que j'étais. Depuis que je suis à Nancy, j'ai toujours vécu à deux. Donc, tu vois, d'apprendre à vivre tout seul, de. T'as des objectifs en sport, tu dois te faire bien manger, il est dimanche 21h, t'es tout seul, le seul truc que t'as envie de faire c'est commander un McDo. Bah tu vois, de pas faire tous ces trucs là alors
pour
que
toi.
Pour moi, tu vois, et ça c'est vraiment des trucs que j'ai appris à faire les 6 derniers mois, quoi.
Okay.
Les 6 c'est un an derniers mois.
C'est trop cool. Les phases de célibat, on apprend beaucoup sur nous.
Oui. Clairement.
Et ça fait du bien. Bah merci d'avoir répondu avec honnêteté. Est-ce qu'on en tire une dernière?
Yes. Qu'est-ce qui t'émerveille le plus? C'est intéressant parce que je pense que la chose qui m'émerveille le plus, c'est le truc qui me... Comment dire? Enfin, pas m'effraie, mais m'attriste le plus. C'est vraiment la capacité des humains à faire des trucs ensemble.
Ok.
Tu vois, genre, des fois, je me dis... C'est ouf, on arrive à créer une équipe, on se connaît ni d'Ève ni d'Adam, tu vois, les gens, ils sont à fond dans ce qu'on fait, ils sont vraiment passionnés par ça. Et d'un autre côté, je me dis... Quand tu vois les horreurs que les gens arrivent à s'infliger les uns aux autres, toute la guerre qu'on a en ce moment, je me dis mais comment on peut en arriver là en tant qu'être humain. C'est, enfin, moi vraiment rien que mettre une claque à quelqu'un, ça me fait tu vois, c'est pas du tout ce que, et je me dis il y a des gens, ils se tirent dessus en ce moment, enfin, pour se tuer juste pour un terrain, enfin pour un truc qu'ils savent même pas pourquoi ils le font, et je me dis c'est quand même c'est chaud, tu vois. Autant les trucs, on arrive à faire des trucs incroyables. Enfin, moi, je vois des entrepreneurs qui m'inspirent de fou, tu vois, genre Bah, Elon Musk, tu l'aimes pas, mais il est en train de créer des puces qu'on va pouvoir implanter à des tétraplégiques, qui est déjà le cas, pour qu'ils puissent marcher. Tu vois, je me dis, c'est... Alors, évidemment, ça a une base... Enfin, il y a des motivations d'argent, de tout ça, mais c'est quand même...
L'impact est
L'impact est
là.
incroyable, tu vois, genre... Le fait d'aller explorer l'univers, de savoir un peu plus de où on vient, de comment ça s'est fait et tout. Et d'un autre côté, bah, on se tire dessus, quoi.
Ouais, ouais, c'est vrai que y a ces deux côtés, quoi. Comme tu as très bien dit, les trop belles choses et comment on peut
Ouais.
s'unir et comment on peut vite
Même
s'égaliser.
tu vois, le sport. Enfin, vraiment, si je devais mourir demain, et on dit toujours, tu as 7 minutes pour te remémorer des choses les plus marquantes de ta vie. Je sais qu'il y a les finales de Coupe du Monde de football, parce que j'étais avec mes copains, parce qu'on a vécu des émotions, mais tu vois, genre on a vraiment vibré ensemble autour d'un truc. Pourtant, le sport, enfin, tu vois, quand tu réfléchis, le football, c'est des gens qui tapent dans un ballon. Enfin,
Ouais.
c'est très, très nul comme concept, mais juste le fait que, tu vois, moi je suis très compétitif, tout ça, et je trouve ça crée des trucs incroyables. Enfin, tu vois, c'est vraiment les moments. Bah, je suis beaucoup à la natation quand t'as Léon Marchand qui bat tous les records que Michael Phelps il avait fait. Tu te dis, mais c'est. Enfin, tu vois, émotionnellement, ça apporte plein de trucs. Et du coup, je me dis, c'est ouf qu'on arrive à créer des trucs comme ça. Et d'un autre côté, être en 2024 et se battre encore pour un bout de terrain ou pour de l'argent, du pétrole, de je ne sais quoi. Enfin, tu vois, c'est. Même les gens qui arrivent et qui tuent des gens juste pour tuer des gens. Enfin, ouais, c'est compliqué, quoi.
Ouais, c'est compliqué parce que je trouve que des fois c'est. Enfin, je crois que je capte ce que tu veux dire, c'est de dire waouh, c'est incroyable, et des fois c'est ah ouais, non, là j'ai envie de perdre foi en l'humanité.
Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi je le dis souvent à mes associés, tu vois. Rien que des fois, on a eu des personnes avec qui ça s'est très mal passé aussi. Enfin, tu vois, ça c'est un peu
Normal,
le downside. Tu te dis, mais comment, en faisant tout ça, tout ce que t'as fait, en essayant d'être le plus, enfin, tu vois, gentil, humain possible, les gens arrivent à te la mettre à l'envers comme ils sont en train de le faire, tu vois. Moi, Abby a été créée parce qu'on s'est associé avec des gens sous le cachet vraiment de la bonne volonté, tout ça. Et en fait, au bout de 2-3 mois, quand on était bah, un peu tu vois, en manque de trésorerie, tout ça, qu'on allait vraiment mourir la bouche ouverte, toutes les conditions ont changé de l'association. Tu vois, genre en mode, c'était plus bah, on s'associe sous ces conditions-là, c'est maintenant, vu que vous êtes à sec, on change tout pour que ça soit conditionné à des trucs qui étaient infaisables, tu vois. Et tu te dis, bah, toi, tu as essayé de faire ça bien, et on est en train de te la mettre à l'envers parce que juste, t'es trop gentil, tu vois.
ouais.
Et des fois, bah, tu te vois faire des comportements qui auraient pas forcément été ce que t'aurais. Enfin, tu vois, les décisions, les paroles que tu dis, qu'aurait été le cas si jamais t'aurais pas eu toutes les expériences de gens qui ont essayé de te la mettre à l'envers.
Complètement, et
Ouais.
d'apprendre de ça.
C'est ça, ouais. Après, je me dis, le monde est quand même bien fait, les gens qui font des choses mal finissent toujours par le payer, et en bien, en général, ça. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien quand même.
Ouais, moi je crois beaucoup au karma et encore plus au business, mais pas le karma dans le sens où tu fais un mauvais truc. T'as un bus qui va te rouler dessus, tu vois. Et pas
Ouais.
ça, mais de. On peut pas avoir. En fait, ce qui fait des mauvaises personnes, c'est une répétition de mauvais comportements de façon intentionnelle. Et au bout d'un moment, dans un milieu, par exemple, dans le business, tu te grilles, tu vois.
Ouais, il y a forcément un moment où
Tu te
ça.
grilles, ça sait, les gens vont se méfier, et c'est normal, tu vois. Et au contraire, bah, le cercle vertueux de bah, tiens, t'aides, t'es assez transparent et tout, et puis les
Ouais.
gens vont vouloir t'aider aussi.
Je suis complètement d'accord parce que tu vois, nous, ça le fait déjà. Vu qu'on a toujours été très humain, très humble et gentil avec les personnes avec qui on travaille, bah, tu vois, on a travaillé ensemble. Enfin,
Ouais.
vraiment, on essaye d'avoir ces relations et pas pour le faire, enfin, pas pour faire semblant, tu vois. C'est vraiment comme ça qu'on est. Et en fait, enfin, ça paye de fou parce que, bah, tu vois, après, les gens, tu vois, tu m'invites ici, bah, on a bossé ensemble, c'était un bon premier truc. Il y a pareil, je suis passé dans des podcasts, mais on va travailler ensemble. Enfin, tu vois, c'est vraiment les gens prennent plaisir à te recevoir, tout ça, parce que t'as été gentil avec eux à un moment, et te l'as fait sans attendre rien, tu vois. Je pense à Virginie Guyot, qui est une assistante administrative avec qui on travaille depuis maintenant quasiment 2 ans. L'autre fois, elle nous a saucé complet sur BFM, sans rien qu'on lui ait demandé, parce qu'en fait, juste, on a été gentil avec elle, on l'a traité comme on aurait traité n'importe qui, tu vois, et du coup, bah, elle nous a fait une pub incroyable pendant 1 minute 30. Juste parce qu'en fait, on a été nous, et
Ouais.
humains, et de bonne foi, et bien intentionnés.
Ouais, les gens qui, bah, qui recommandent. Enfin, tu vois, moi je sais que ma collab s'était super bien passée avec vous. Dans le sens où je me suis dit, en fait, Et c'est ça qui montre aussi que des fois, le niveau n'est pas très élevé, parce que juste, en fait, c'était transparent, carré, à l'heure, et c'était en mode, et un appel trop cool et tout, donc le petit plus humain, et juste dire, bah ok, fine, en fait, c'est comme ça qu'il faut travailler, c'est comme ça qu'il faut avancer.
Ça, c'est intéressant le truc que tu dis, parce que souvent, ceux qui disent qu'ils facturent des sommes improbables, notamment sur LinkedIn, et que quand tu bosses avec et tu vois comment ça se passe, tu te dis des fois vraiment j'aimerais bien faire des petits posts un peu épineux. Je le fais pas parce que je sais que je vais m'attirer des problèmes et que j'ai pas envie de, tu vois, je me dis maintenant il y a Abby aussi dans le lot et on est beaucoup présent sur LinkedIn, et si je commence à tacler les gens dans tous les sens, ça va être mais il y en a qui mériteraient un peu de tirage d'oreille et tu vois, de se refaire mettre un peu en place, parce que des fois ils font un peu d'argent, ok certes, mais faut voir dans quelles conditions et avec quel sérieux, quoi.
J'en parlais avec Julia, qui est une amie entrepreneuse, et on se disait, en fait, qu'on... Et des fois, en plus, on peut complexer ou se comparer, parce qu'on voit des chiffres de malades sur LinkedIn. Et on se disait, c'est drôle, parce qu'en fait, après, quand tu connais dans le milieu, tu sais qu'il y a certaines personnes qui sont très alignées sur ça, très alignées sur leurs valeurs.
Ouais.
Et il y a des gens, tu bosses avec eux, tu leur présentes un truc... Ils vont te négo 200, 300 euros sur un budget, alors que dans les postes, c'est mes prestats, je les paye bien.
Hein. Oui. Oui, ça c'est vraiment l'hypocrisie. Elle est, même nous, le truc qu'on a été le plus choqué, c'est la qualité du rendu. Mmh. On nous a déjà fait, bon, je ne vais pas donner de nom, hein, mais on a déjà payé des trucs, bon, ça devait être 5-7 000 euros. Un beau chèque quand même, hein. Tu te dis ça fait quasiment une voiture, enfin,
ouais.
Quand tu remets en perspective, on nous a déjà sorti des devis où tu te dis c'est quand même quasiment une 208, alors peut-être il y a du travail et tout, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment ça 5-7 000 euros? On nous fait le rendu, il y avait le logo et des liens de la marque avec qui le truc avait été fait avant.
Ouais.
Tu te dis mais attends, ok, peut-être tu t'en resserres de ce que t'as. Pourquoi pas, à la rigueur. Et encore, pour 5-7 000 euros, je pense que tu peux essayer de trouver quelque chose de
personnalisé.
Tu rends un truc où il y a des logos de la, enfin, de la marque avec qui tu as fait le truc d'avant.
Ouais.
Et après, derrière, ça fait des leçons en mode « Moi, je fais les trucs bien, je suis carré et tout. » Bon, Des fois, tu sais, t'as le commentaire, t'es là, tu l'écris. tu te souviens de ce que t'as fait avec nous? Bon, allez, on va se raviser parce que ça sert à rien de faire... Enfin, tu vois, moi, je suis pas dans les polémiques et tout, enfin... Voilà, mais bon, des fois ça me démange un petit peu, tu vois.
Mais c'est bien qu'on a abordé le sujet, parce que c'est une bonne piqûre de rappel de dans l'entrepreneuriat, dans le soloprenariat, peu importe ce qu'on fait, de pas trop se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux, parce que des fois ça manque beaucoup de transparence.
Ouais, mais dans tous les trucs, tu vois, dans le running et tout, t'as des gens, ils disent ouais, je fais une prépa marathon, ça se passe trop bien et tout, alors qu'en fait ils ont mal partout, ils sont en train de, ils ont perdu leur vie sociale, enfin tu vois, il y a, je trouve, il y a beaucoup, surtout Instagram, tout ça, ça a quand même, tu vois, créé l'image du beau.
De l'esthétique.
Un point, et du coup, LinkedIn est en train de le faire avec le business. Donc, c'est bien de s'en servir, mais il faut connaître aussi un peu, tu vois, le fait, ouais, comme tu dis, de ne pas se comparer, de rester tranquille par rapport à tout ça, quoi.
C'est ça, ouais. Bah, écoute, ça fait une heure qu'on papote.
Yes.
J'ai une question, c'est qui est-ce que tu aimerais écouter sur ce podcast?
Qui est-ce que j'aimerais écouter sur ce podcast? Bah, mon associé Nicolas.
Ok.
Ça serait marrant parce que tu vois, on parle pas trop des émotions. Enfin, quand on en parle, c'est un peu compliqué.
D'accord.
Du coup, ça serait marrant.
Ok, de l'avoir, bah, trop bien, je note.
Et sinon, il y a Théo Lyon aussi, je sais pas
si Théo Lyon. Oui, je l'avais en idée, donc.
Ouais.
Ça peut être sympa de l'inviter.
Je pense que ça peut être cool.
Ok, Théo Lyon et Nicolas.
Yes.
Trop bien. Mais écoute, merci, j'ai passé un bon moment, j'espère que toi aussi.
De même.
Et je mettrai tous tes liens pour que les gens puissent te retrouver.
Ça marche.
Ok, merci.
Merci à toi.
C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.